Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast du journal La Montagne consacré à l'actualité de l'ASM Clermont. Des Clermontois victorieux ce week-end, c'était à domicile face à Pau. Et pour en parler à mes côtés, Christophe Buron et Didier Cros. Bonjour messieurs.
Bonjour Greg, bonjour à tous.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour Greg.
Didier, Christophe, tous les deux spécialistes de la rubrique rugby au journal. Et cette question, on va débattre autour de cette question. Et quelle est la réelle place de l'ASM? Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui? Et bien, c'est une question qu'on s'est posée, c'est très simple. Parce que dans un championnat jamais aussi serré, on a envie de dire de top 14, les Clermontois sont un peu dans le ventre mou. Quasiment à égale distance de la place de barragiste à la place de sixième qualificatif pour les places des phases finales. Et donc cette question, quelle est la réelle place de l'ASM? C'est la question que je vous pose.
Bah elle est à sa place hein, pour l'instant, c'est-à-dire 9e je crois ou
10e.
10e.
Ouais, 10e exactement.
Ce qui fait, enfin, il y a un peu de vide devant les supporters, devant les acteurs de l'ASM, parce qu'il y a deux déplacements à venir. Et que ça pourrait faire basculer en cas de zéro pointé sur ces deux déplacements à venir.
Il y a un déplacement au Racing pour commencer.
Voilà, et après à Bordeaux.
Bordeaux, ça viendra plus tard. Hein. Ce sera le 20 avril.
Ouais. Mais c'est les deux prochains matchs de ce championnat.
Ah oui, bien sûr.
Donc c'est les deux prochaines journées. Donc dans ce cas-là, ça sera clairement un recul encore sur l'échiquier de ce top 14, qui, comme tu l'as dit, est très indécis.
Ah, mais parce que ça veut dire que tu penses qu'on peut plutôt présager. De mauvais résultats à l'extérieur.
De mauvais résultats, il peut y avoir des bonnes surprises, hein. On n'est pas à l'abri, mais c'est quand même deux gros calibres.
Bordeaux et Racing, c'est 3e et 4e.
Et voilà, donc ramener des points de là-bas, ça sera bien, ça sera même un petit exploit. Mais 100 points ramenés, clairement, ça sera compliqué, quoi, sa situation. Et du coup, peut reculer encore 12e, voire 13e place.
Alors Clermont, la situation au classement est très simple. Ils sont à 4 points du stade Rochelet qui a 46 points. Clermont en a 42. Mais en même temps, à 5 points de Montpellier, 13e qui en a 37. Didier, toi, tu regardes plutôt en bas ou plutôt en haut?
Vu la dynamique actuelle, il faut, à mon avis, plutôt regarder vers le bas. Hein, et par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les deux prochains déplacements, il faut plutôt regarder dans le rétroviseur que regarder dans le pare-brise avant. Hein. Parce que la tendance est pas bonne quoi, malgré la victoire contre Pau.
Essentiel, 31-28. Mais qui en même temps lâche un point de bonus défensif à Pau.
Exactement, mais comme derrière Perpignan a gagné, bon, Lyon retrouve. Bon, Lyon a heureusement perdu, enfin heureusement par rapport à la place de barragiste, hein, puisque on parle essentiellement de la place de barragiste. Mais oui, Lyon oui, va récupérer quasiment une équipe complète qui était à l'infirmerie, donc ce ne sera pas la même équipe qui va aborder les 8 dernières journées. Donc non, clairement, pour moi, Clermont doit regarder derrière au regard de ce qu'il a montré, au regard de ce que les Clermontois ont montré ces dernières semaines. Hein. Si on parlait des Clermontois et de la prestation qu'ils avaient montrée au mois de janvier, le discours serait différent. Mais bon, jusqu'à présent, cette victoire contre Pau, bon, c'est un rayon de soleil dans une période difficile. Donc pour moi, il faut regarder derrière.
C'est un court répit et qui est en plus s'accompagne d'équipes comme Didier en parlant de Perpignan, mais on peut aussi rajouter Bayonne, des équipes qui ne lâchent pas. C'est-à-dire des équipes qui sont susceptibles d'être un petit peu concernées par ce fameux match de barrage de descente. Perpignan, peut-être Bayonne.
Bayonne, c'est devant Clermont. Hein.
Oui, c'est un point qui ne lâche rien. Quoi, vraiment, donc ça va être compliqué jusqu'au bout, en effet.
Alors, dans quelques instants, on retrouvera les top flops, mais donc on continue à débattre de cette question pour le moment. Quelle est la réelle place de Clermont dans ce top 14? Alors, Didier, tu regardes, je t'ai posé la question de cette manière, hein, est-ce qu'il vaut mieux regarder en haut ou en bas? Et tu m'as dit, je pense qu'en bas, c'est mieux, au-delà de ça. Est-ce que Clermont n'est pas à sa place 10e dans le ventre mou?
Forcément, si. Enfin, le ventre mou, c'est même pas le ventre mou. Moi, je dirais que c'est plutôt le dernier tiers du classement. Le ventre mou, c'est quand on est entre la 5e et la 8e place. Hein. Là, c'est pas le ventre mou. Ils sont dans une situation où ils sont en lice pour le barrage. Donc, c'est pas tout à fait le ventre mou quand même. C'est la deuxième partie de tableau quand même.
Christophe, d'accord avec ça?
Oui, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que si on prend les références toutes récentes et la qualité de rugby qu'on a pu voir ce week-end, et notamment le dernier match entre Bordeaux et Toulouse.
Je voulais venir. Quelle est la déjà,
on se dit que...
Voilà. Ouais, pardon Christophe, mais on a parlé de la partie comptable.
Oui. Là,
parlons
un peu comptablement, oui.
Parlons un peu de fond de jeu, effectivement. Si on parle du jeu de l'ASM, ce qui était proposé ce week-end face à Pau, il y a une victoire au bout, mais c'était perfectible, on va dire.
Pour l'ASM ?
Ouais.
Ah ben il y a des choses à régler, oui. Le coach en a parlé. Il y a la conquête, il y a probablement quelques trous encore dans la raquette en défense, enfin des choix un peu contestables. Ils peuvent progresser, mais sur la qualité de jeu, et donc ça induit forcément la qualité de l'effectif et la profondeur de l'effectif de cette équipe. J'ai peur quand même que Clermont ne soit pas en capacité de rivaliser avec des équipes qui visent clairement le top 6, enfin qui sont... On va parler de Bordeaux, de Toulouse, La Rochelle.
Quand on pense, tu le disais tout à l'heure, pardon, je t'ai coupé, mais à ce match entre Bordeaux et Toulouse ce week-end, le niveau de rugby, ça va plus vite.
Bon, il était exceptionnel. Hein. C'est peut-être l'un des meilleurs matchs qu'on ait vu ces dernières saisons, de phase régulière, hein, ça c'est clair. Hein. Et c'est vrai que là, tout de suite, il n'y a pas que Clermont qui souffrait la comparaison avec ces équipes-là, mais Clermont, oui.
Bonifié par la présence de joueurs exceptionnels. Quoi,
qui avait plus.
Et qui n'avait pas, notamment du côté de Clermont, en nombre trop restreint contre Pau. Il y avait sûrement plus de talent à Pau qu'à Clermont samedi après-midi.
En termes d'effectifs ?
Parmi les joueurs.
Ouais.
Parmi les joueurs. Alors en termes d'investissement, donc, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, mais en termes de talent pur, je ne suis pas sûr qu'il n'y en avait pas plus du côté de Pau que de Clermont. Et bon, ne parlons pas de la comparaison avec le match Bordeaux-Toulouse, hein, où alors là, c'est le jour et la nuit. Quoi.
Alors si je vous suis bien, Christophe Furios, il peut s'arracher les cheveux, mais... Il peut faire ce qu'il veut, il est comme tous les coachs, il peut un peu bonifier l'effectif avec son staff, et certainement, vraisemblablement, le fait-il, mais il peut pas
non plus... Dans une de ses interventions, je crois que c'était vendredi, ou après le match, c'est vendredi.
Avant donc.
Donc avant le match, il disait qu'il était quand même assez interpellé par ce qui se faisait ailleurs en termes de recrutement et qu'il était en alerte. Quoi. En creux, ça voulait dire, est-ce qu'on va arriver à suivre sur cette voie-là où ça recrute à tout va et des joueurs de haut niveau ou de très très bon niveau. Et pour l'instant, Clermont est un petit peu... Bon, ils n'ont pas annoncé officiellement leur recrutement, mais on en a quand même une idée assez précise. Ça ne sera pas du haut de gamme international, enfin du standing, du très haut standing, hein, on le sait. Hein, donc,
en qualité et en quantité.
Et en quantité aussi. Ouais.
Et en quantité, oui, ouais. Parce que de l'autre côté, il s'arme plus, quoi. Je veux dire, c'est la machine... La machine de guerre l'économie de guerre est en route. Hein.
Donc là, vous êtes en train de nous saper le moral, c'est-à-dire qu'au-delà de dire qu'ils sont à leur réelle place cette saison, ils sont à leur réelle place peut-être même pour les saisons à venir.
Ah ben après, Christophe Furios a un mantra, c'est de dire que l'état d'esprit peut compenser beaucoup de choses et que ses réussites, que ce soit à Oyonnax ou à Castres, ont prouvé qu'avec des joueurs, avec des effectifs peut-être moins talentueux que d'autres à ces époques-là, il a fait, pas des miracles, mais il a fait des très très belles choses, notamment un titre de champion en 2018 avec Castres. Donc il mise pour forcément, peut-être aussi sur ce caractère d'équipe qu'il essaye d'inculquer à Clermont. C'est peut-être pas encore complètement abouti, on va dire.
En tout cas, il va falloir qu'il le fasse de manière très urgente pour les deux prochains matchs à l'extérieur, si Clermont va avoir une chance de jouer un top 6.
Ah bah pour jouer le top 6 dès cette saison-là ?
Ouais.
Ah oui, il faut absolument un exploit ou au Racing ou à Bordeaux pour se mettre dans des conditions de rester accroché à cet espoir de top 6, tout à fait.
Clermont, est-ce que vous pensez que cette équipe a une marge de progression encore au cours de la saison en termes de niveau de jeu ?
Elle peut retrouver un peu le niveau qu'elle avait en janvier, mais
parce que ce moment a existé quand même dans la saison.
Oui, ils ont enchaîné quelques bons résultats, quelques bons matchs aussi. Enfin, oui, des bons matchs, pas flamboyants, mais des matchs où ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Quoi. Après, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et ils sont confrontés à un déficit de talent derrière, quoi, pour faire la différence. Dans les grands matchs, dans les matchs serrés, moi j'ai peur que derrière il n'y ait pas le matériel, enfin notamment derrière, mais aussi sur certains secteurs, notamment en première ligne, pour arracher une décision sur des matchs ric-rac, quoi.
T'es d'accord avec ça, toi, Christophe? Derrière, première ligne, c'est les deux gros points noirs, on va dire. Enfin, en tout cas, les deux niveaux, la SM pourrait
Tu parlais s'il y a une marge de progression. Oui, il y a des joueurs qui peuvent encore élever leur niveau de jeu. On attend de certains joueurs qui progressent véritablement. Hein. Moi, je pense souvent l'exemple d'un Kylian Tixeron qui était capitaine des moins de 20 il y a 2 ans.
Ouais.
Et donc, c'était un très, très bon joueur dans sa catégorie d'âge. Là, c'est un bon joueur de club, hein, mais on attend peut-être un poil plus par rapport à d'autres internationaux jeunes de son âge et dans les autres clubs qui vraiment percent véritablement. Tixeron, pour l'instant, il y a un petit plafond de verre. Il faut qu'il le perce et qu'il devienne encore un peu plus incontournable, quoi, dans cette équipe. Parce qu'on connaît la problématique de l'ASM, elle est basée sur des meilleurs joueurs qui sont pas gifs, qui sont donc étrangers. Et c'est un peu embêtant, quoi, qu'il n'y ait pas plus de joueurs éligibles à la sélection française qui soient de plus haut niveau dans ce club, quoi.
À l'ouverture, Roda Pileta, Bello.
Roda Pileta, il marque clairement le pas depuis sa blessure. Hein. C'est pas le joueur que le dirigeant espérait avoir ou du début de saison. Là, il est pas à son meilleur. C'est pas le meilleur Roda Pileta que l'on peut avoir. Hein. C'est clair.
Rappelez-nous quelle était exactement sa blessure.
Il s'est blessé à une épaule à Pau, je crois, autant que je me souvienne, juste avant la fin de l'année, le 23 décembre, il me semble, une déchirure, enfin l'omoplate, la clavicule, et il a rechuté après, il a rechuté un peu plus tard, je crois, sur le même genre de blessure, au niveau du biceps.
Pardon. Et normalement, c'est une blessure qui nécessiterait plus souvent une opération. Là, elle n'a pas été effectuée parce que sinon ça lui faisait un arrêt très long, ce qui n'allait pas arranger le club ni lui, je pense. Donc du coup, il doit jouer quand même avec une certaine gêne. Ça,
ouais, tu penses qu'il est diminué un peu, ouais.
Peut-être un poil diminué physiquement par rapport à cette blessure.
Parle bien dans le micro. Ouais.
Et puis ce garçon a 38 ans, quoi. Hein, il vient de faire 38 ans. Donc voilà, quoi. Tout est dit.
Oui.
Combien de temps il
peut
encore...
L'idée de ne pas être opéré non aussi. Hein,
oui, probablement, oui, tout à fait, oui. Mais c'est vrai qu'à ce poste de à la charnière, tout de suite, ça cherche un peu le bon équilibre. Ça, c'est pas encore complètement. Même si les uns et les autres font des matchs plutôt aboutis, on attend que Bello retrouve la dynamique qui était la sienne en début d'année. C'est à voir dans les prochains rendez-vous.
Prochain déplacement, on va sortir de cette question, on va juste évoquer le futur de l'ASM et puis ensuite on passera au top et au flop. Déplacement au Racing, c'est un déplacement qui paraît très compliqué là pour les Clermontois.
Ça s'est souvent mal passé au Racing hein, pour ces dernières saisons où Clermont a souvent pris des. Je me souviens, il y a 2-3 ans, c'était encore à Zéma où ils avaient pris une grosse raclée. Oui, en plus le Racing, il semble être sorti de la mauvaise passe dans laquelle ils étaient là ces dernières semaines. Ils restent sur, je crois qu'ils ont, oui, ils restent sur 2 victoires consécutives. Donc c'est une équipe qui va mieux, hein, qui était au fond du trou il y a quelques semaines et qui va mieux. Donc qui a retrouvé des joueurs, qui a retrouvé des. Bon, ça, c'est pas le meilleur endroit pour se relancer, je crois. Mais est-ce qu'il y a des bons stades pour se relancer actuellement dans ce top 14? Je suis pas sûr non plus.
Non, ça c'est clair. Vu le niveau de complexité de ce top 14 cette saison, c'est quand même particulièrement indécis.
La dernière victoire des Clermontois à l'extérieur, c'était le 27 janvier à Castres.
Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors, c'est vrai qu'avec ces deux déplacements, là, l'ASM se retrouve fin décembre, après cette défaite terrible contre Bordeaux ici, où elle avait 2 déplacements à la suite, au Stade français et à Castres.
Ouais.
Un nul et une victoire.
4 points. Pardon,
6 points.
Oui, 6 points.
Là, il signerait des deux mains. Hein. Pour ce genre de bilan, même la moitié.
Oui, parce que le nul au Stade français, je rappelle que le Stade français est leader du top 14 aujourd'hui, donc c'est pas mal.
Ouais. Et il gagne à Castres, où c'est jamais simple d'aller gagner. Donc voilà, le défi est là. Comme dit Urios, ils ont tout à gagner. Bah, moi j'ai envie de dire hein, qu'ils grappillent le plus de points possible, ça sera toujours ça de prix dans la course au maintien.
Avec toujours,
au top 6, oui.
Avec toujours la problématique des GIFs à prendre en compte parce que
t'as raison Didier de le souligner
parce que pour espérer ramener quelque chose il faut aligner une équipe qui soit bien charpenté. Or, depuis le début de la saison, on sait que la meilleure équipe est composée de joueurs non gifs, quoi, notamment devant. Quoi. Donc
quand tu es obligé d'aligner des gifs, bah, on imagine qu'il va le faire là, sur les deux matchs.
On va synthétiser de manière très claire. Samedi, pour moi, il me dira si je me trompe, mais 3 des 4 meilleurs joueurs, Simons, Fritzli, Moala, je rajoute Tiato, donc et lui est gif, bon, il y en a 3 sur 4 qui sont non gifs. Ouais. Tout est dit. Voilà, l'ASM performe et s'appuie sur des cadres importants qui ne sont pas gifs.
Merci messieurs, on a compris donc la réelle place de l'ASM est bien de nous alentours de cette 10e place et que ça varie selon si elle est gif ou non gif, donc un peu plus haut ou un peu plus bas. On va passer au top flop. Didier, toi tu as un top ou un flop ?
Ben, ça sera un flop, ça sera bon, un flop un peu empreint de tristesse, c'est pour nos amis d'Oyonnax qui en s'inclinant contre Perpignan ont mis un premier pied en Pro D2. La descente semble assurée. Ils s'étaient refait un petit peu de la cerise et ils avaient regonflé le moral en venant chercher un nul lors de l'avant-dernière journée à Clermont. Et là, bon, cette défaite contre Perpignan, un de leurs concurrents directs, Clermont aussi d'ailleurs, mais là, leur fait faire très mal au moral et sur le plan comptable. Et pour en revenir, on va retomber un peu sur nos pattes par rapport à l'ASM. Il faut constater que contre cette équipe de Oyonnax qui est dernier, Clermont n'a pas réussi à gagner, mais ils ont pris que 2 points du nul sur 10.
Par rapport aux autres, c'est pas terrible, je rappelle quand même.
Donc
juste...
là, on en vient à situer le niveau de Clermont. Quoi.
Je rappelle juste qu'en 8 matchs, Oyonnax, 8 matchs en 2024, c'est 7 défaites et 1 nul.
Voilà.
Voilà, en top 14, pardon. Didier, ouais, pardon, mais merci Didier. Christophe, toi, top flop ?
Alors, c'est un top avec un. Je glisserai un petit flop sur ce match-là. Alors, le top, moi, c'est la qualité du rugby, on en a parlé, hein, de Bordeaux-Toulouse hier soir, avec des joueurs exceptionnels, des actions remarquables. Un joueur stratosphérique dont on dira jamais assez, qui est quand même assez. Il est très unique dans son genre, qui s'appelle Antoine Dupont. Même si, soi-disant, il n'a pas tout réussi en première mi-temps, on a bien vu par la suite que dès qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose et que ça stoppait tout le monde. Quoi. C'est un joueur unique.
C'est son coach qui a dit que c'était peut-être le meilleur 9 du monde, mais ce n'était pas un mauvais 10 non plus.
Mais ouais. C'est un point d'ironie chez Hugo Mola. Mais il y avait du talent un peu partout. Damien Pounot était exceptionnel aussi. Enfin bon, c'était... Bravo. Et cette équipe de Bordeaux me surprend parce qu'on connaissait la qualité de ces trois quarts, mais devant aussi, ils ont des jolis poulets, hein, comme on dit. Ce numéro 8 international japonais, là, Totafu. Bravo. C'est un super joueur, super numéro 8. Beau chaton aussi, là, le troisième lien, a fait un super match. Et je voudrais glisser un tout petit flop par rapport à ce match. C'est l'arbitrage.
Ah, tu fais un top flop, quoi.
Voilà, c'est ça. Okay. C'est l'arbitrage vidéo. Monsieur Bonnour. Bien célèbre à Clermont, qui a eu un comportement quand même très curieux sur l'interception de Penaud, bon, qui a été tué dans l'œuf par un adjoint volontaire de Paul Coste, et qui a affirmé qu'en aucun cas il a dit à l'arbitre central, mais non, tu vas quand même pas accorder un essai de pénalité, il reste 30 mètres à faire, qui te dit qu'il aurait été au bout, on en pense que dans le de ce constat, de la décision. Ouais. C'est la manière dont l'arbitrage vidéo est en train de prendre le pouvoir sur l'arbitre central. C'est ce qui me gêne un peu. Donc c'est un peu mon flop.
Toi, tu préfères quand la première impression de l'arbitre central...
Encore une façon de déresponsabiliser les arbitres de terrain. On les critique assez comme quoi ils n'ont pas assez de niveau et tout. Si en plus les arbitres vidéo, dans leur camion ou devant leur télé... Enfin non, ils sont dans un camion là, pour le coup... derrière les tribunes du stade commande, bon, ça me gêne un peu.
Oui, la particularité en plus du rugby qui est un des rares sports à ne pas avoir de VAR, c'est-à-dire ne pas avoir réellement quelqu'un qui est à côté de l'arbitre pour changer la direction du ralenti et ainsi de suite. C'est un peu technique, mais ça veut dire que concrètement, en rugby, on subit ou en tout cas, on est obligé de regarder la réalisation de la télé.
Tout à fait, c'est ce que je veux dire. C'est la production du diffuseur qui influence beaucoup de choses, hein. Tout à fait.
Je sais pas si influence, mais en tout cas, ça fait que c'est pas comme dans d'autres sports où l'arbitre assistant vidéo a un opérateur ralenti à côté de lui pour lui montrer l'angle et ce qu'il veut voir, quoi.
Exactement.
Voilà. Merci, messieurs. On va donc regarder avec beaucoup d'intérêt le prochain déplacement de l'ASM du côté du Racing, voir si les hommes de Christophe Furios vont réussir à marquer des points. Bonne semaine à tous. Ciao.
Merci Greg.
Au revoir à tous.
À tous.
Et à toutes.